Éric Bataillon.
Bonjour, Yassine Alhadj Saleh a passé 16 années dans les prisons d'Hafez el-Assad. Considéré comme l'un des théoriciens du soulèvement de 2011 en Syrie, il compte parmi les auteurs et dissidents arabes les plus influents. Hasan Cemal est un journaliste turc, petit-fils d'un haut dignitaire jeune turc assassiné en 1921 par un arménien. Et pour la première fois, ces deux intellectuels sont publiés en français dans une nouvelle collection, Traversée, dont nous parlerons avec ses créateurs Timur Muhyiddin et Franck Mermier. À suivre également notre rendez-vous avec les observateurs de France 24 et la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Il est de plus en plus fréquent de trouver de la littérature arabe ou turque traduite en langues européennes, notamment en français. En revanche, il est assez rare de trouver des traductions de travaux de chercheurs et intellectuels du Moyen-Orient. C'est pour combler ce vide qu'une nouvelle collection est lancée. Elle est dirigée conjointement par Franck Mermier, chercheur au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et par Timur Muhyiddin, professeur à l'INALCO. Bonjour.
Bonjour.
Franck Mermier, pourquoi est-il si difficile de publier en français, notamment, des ouvrages d'intellectuels du Moyen-Orient ?
Alors, il faut savoir que ça reflète aussi une crise de l'édition en sciences sociales, hein, qui est particulièrement vive en France. Même pour les auteurs français de sciences sociales, effectivement, les éditeurs ont des difficultés à les publier parce que les tirages ont beaucoup baissé. Alors, pour ce qui concerne ensuite les chercheurs du Moyen-Orient, il y a un autre problème qui se pose, c'est aussi l'invisibilité, souvent, d'une partie de leurs œuvres, puisqu'il y a très peu de plateformes, de supports, notamment en langue arabe, qui permettent de connaître ces productions. Donc, il faut aller fouiller finalement dans les foires du livre, dans les librairies, dans le monde arabe, pour aller trouver des recherches qui seraient intéressantes à publier et à traduire en français. Et puis il y a un autre problème aussi qui est la situation des sciences sociales aussi dans le monde arabe, où l'enquête finalement est quelque chose d'un peu délaissé. Et donc il est vrai que des textes liés aux réalités sociales contemporaines dans le monde arabe sont aussi difficiles à trouver en raison aussi des déficiences du système universitaire dans le monde arabe.
Vous voulez dire que par exemple il n'y a pas de revues qui font autorité dans le monde arabe et qui peuvent publier un certain nombre de ces travaux ?
Alors moi, j'ai justement pour collectionner ces textes, pour chercher ces textes, je suis allé fouiller dans des revues aussi, dans certaines revues du monde arabe qui sont pas tout le temps toujours universitaires. Certaines revues, j'allais dire presque alternatives, publient des recherches justement très intéressantes qui sont souvent aussi liées à des points de vue, à des prises de position politiques, mais qui au moins reflètent des réalités et surtout reflètent des points de vue et des angles d'analyse qui sont inédits. Et c'est un petit peu aussi le but de cette collection, de publier des visions de l'intérieur, si on peut les appeler ainsi. Et donc finalement, traduire un livre, donc ça c'est pas facile, mais disons ça peut se faire, comme on l'a fait avec le premier livre qu'on a publié traduit de l'arabe, mais ça peut être aussi finalement construire des ouvrages à partir de textes qui peuvent être rassemblés sur une même question, par exemple sur la question de la péninsule arabique, hein, avec des auteurs de la péninsule arabique, des sociologues koweïtiens, etc., qui ont publié soit dans des ouvrages, soit dans des revues, et donc il s'agit ensuite d'amalgamer ce type de recherche.
Alors votre collection s'appelle Traversée, pourquoi l'avoir appelée comme ça, et qui vous soutient ?
Alors, traverser, tout simplement parce qu'on traverse la Méditerranée, bien entendu. C'est aussi pour pallier les déséquilibres des flux de traduction, d'une certaine façon, enfin, à notre modeste niveau. Alors, il faut ici, bien sûr, relever l'importance de Transeuropéenne, une association très importante qui a fait un état des lieux de la traduction en Méditerranée. Cette collection traversée, elle a été hébergée par l'éditeur Prairie Ordinaire, hein, qui est spécialisé de sciences sociales. Et puis, évidemment, tout un ensemble d'institutions liées notamment à la recherche, comme l'Institut d'études de l'islam et société musulmane à Paris, l'Institut français du Proche-Orient, ont contribué aussi à cette collection.
Timur Muhyiddin, vous avez choisi deux ouvrages pour démarrer cette collection. L'un des deux, c'est un ouvrage traduit du turc. Est-ce parce que vous-même, vous avez des origines turques que vous avez fait ce choix ?
Effectivement, je m'occupe de traduction beaucoup plus de littérature depuis nombreuses années en France. Et cet ouvrage, placé dans un contexte assez particulier de commémoration du génocide arménien, m'a paru intéressant puisque on a à disposition en fait toute une série d'ouvrages écrits par des universitaires ou des chercheurs français, un petit peu certains aussi traduits de l'anglais, mais pas de témoignages turcs. Et comme l'image est désastreuse en réalité, du contact officiel avec cette commémoration qui a été d'ailleurs, soit dit en passant, proposée d'être remplacée ou conjointement en fait le 24 avril, au moment de la victoire des Dardanelles. C'est-à-dire, il y a toute une politique pas très brillante en fait, hein, pour essayer d'échapper à cette commémoration en Turquie. Alors que depuis 2005, il y a toute une série d'universitaires, de journalistes comme Hasan Cemal, l'auteur qu'on publie ici, qui ont pris position très nettement pour non seulement une reconnaissance, mais une sorte de prise en compte historique, enfin c'est ce que raconte cet ouvrage, dans, à l'intérieur d'une famille, comment ça s'est intégré finalement ce débat dans une population qui était plutôt traditionnellement négationniste, on peut le dire comme ça, qui était taraudé par l'État pour ne pas reconnaître. Donc c'est tout à fait passionnant de pouvoir donner ça à lire aux lecteurs français, il me semble.
Car il faut dire que cet auteur, qui est turc, a un regard sur le génocide arménien qui est, disons, inhabituel, en tout cas, qui est en train de changer aujourd'hui en Turquie.
Alors doublement inhabituel, puisque lui, effectivement, il fait partie de j'appelle ça intellectuel, lui, il est plutôt journaliste qu'universitaire, qui ont décidé de prendre les choses en main et de dialoguer, hein, avec déjà la République d'Arménie, ensuite avec la diaspora, ce qui est toujours beaucoup plus difficile quand on est turc, puisqu'on est censé représenter le bourreau. Alors je dis doublement parce que lui vient d'une famille très particulière. Son grand-père, Cemal Pasha, est un des trois jeunes turcs qui auraient instigé, disons, le génocide. Enfin, c'est pas lui qui aurait donné l'ordre, mais il a fait appliquer. Et donc, c'est d'une part une sorte de mauvaise conscience malheureuse, familiale et nationale, qui se joue à travers la confession de Hasan Cemal.
Et ce grand-père, d'ailleurs, avait été assassiné, je crois, en 21, par un Arménien.
Par un jeune Arménien. On dirait un révolutionnaire arménien qui effectivement, les jeunes turcs ont été poursuivis et assassinés, les trois, Cemal et puis Enver et Talat.
Deuxième livre qui est publié par cette nouvelle collection, Traversée, un livre issu de la Syrie, autre pays qui est cher à votre cœur.
Oui, qui est cher à mon cœur, puisque bon, ma famille en est originaire, hein, de côté paternel, c'est donc Alep, ville largement bombardée et détruite ces derniers temps. Donc, l'actualité du Moyen-Orient est jamais très éloignée l'une de l'autre, en réalité. Le génocide arménien, ce qui se passe en Syrie, en Irak, c'est de toute façon la Première Guerre mondiale qui nous revient en plein dans le visage.
Franck Mermier, ces deux premiers ouvrages, manifestement, ce sont des choix qu'on pourrait qualifier de partisans. Vous êtes partisan dans cette collection.
Alors, c'est vrai que le choix d'un intellectuel syrien tel que Yassine El-Hajj Saler, dont le livre est publié dans la collection Traversée, qui s'intitule « Récit d'une Syrie oubliée, sortir la mémoire des prisons », peut apparaître aussi comme un engagement par rapport à ce qui se passe en Syrie, l'engagement aux côtés finalement de ceux qui ont commencé cette révolution en Syrie. Yassine El-Hajj Saler a été emprisonné pendant 16 ans dans les geôles syriennes à l'époque de Hafez al-Assad. Il a écrit son témoignage de prison et en plus on a publié dans ce livre également des analyses de cet auteur sur la situation d'aujourd'hui en Syrie. Yassine El-Hajj Saler est en exil à Istanbul, sa femme a été enlevée il y a déjà 2 ans. C'est véritablement une personne qui est une référence aussi pour de nombreux Syriens, puisqu'il intervient souvent dans la presse arabe. Et donc il était important finalement que l'on ait aussi le point de vue de ces intellectuels syriens qui ne sont ni organisation de l'État islamique ou Nusra, ni du côté des djihadistes, ni du côté de la barbarie de l'État syrien.
Merci Franck Mermier, chercheur au CNRS, spécialiste du monde arabe et notamment du Yémen et du Liban. Merci également à Timur Muidin, professeur à l'INALCO, où vous enseignez la littérature turque. Je rappelle donc cette nouvelle collection, Traversée, aux éditions Les Prairies Ordinaires. Youssef était présent avec son oud au Festival de musique du monde Banlieue Bleue à Clichy-sous-Bois cette semaine. Parmi les morceaux joués par le chanteur tunisien 39 Goulay, extrait du dernier album Birds Requiem. Jafar Youssef sera en concert le 29 juin au Théâtre Antique de Vienne et le 17 juillet à Arles, dans le sud-est de la France.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Les observateurs de France 24 nous envoient chaque jour, tout au long de l'année, leurs informations insolites, humoristiques, décalées ou révoltées, c'est selon. Bonjour Anissa Jalab.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'une des journalistes qui collecte ces informations et, comme chaque mois, vous en avez sélectionné plusieurs pour Orient Hebdo, à commencer par ces photos du Bardo à Tunis, ces photos diffusées en pleine attaque.
Oui, c'est bien ça. Alors, Sofiane Ganjati était présent au musée du Bardo lors de l'attaque. Il a largement diffusé sur les réseaux sociaux des photos prises à l'intérieur du bâtiment. Dans son témoignage, il nous a expliqué que s'il avait posté les photos sur la toile, c'était pour montrer que c'était le musée qui était visé et non le Parlement, comme le reportaient les médias. Il nous a également raconté comment les choses s'étaient passées. Au départ, il pensait que les bruits étranges étaient dus aux travaux. Jamais il n'avait imaginé être pris d'assaut par des terroristes. Lorsque lui et les autres touristes se sont rendus compte qu'il s'agissait de coups de feu, ils ont trouvé refuge dans une autre salle au premier étage, dont ils ont barré l'une des portes à l'aide d'une sorte de barre en fer. Ils étaient 37. Sofiane nous a expliqué que les touristes étaient terrifiés, mais qu'il essayait de les rassurer et de les calmer. Il prenait un maximum de photos et les envoyait à des amis et à des médias locaux pour les informer de leur présence. Les renforts sont arrivés 2h30 plus tard.
Autre sujet, Anissa, les Syriens, ces Syriens de Turquie qui rient à la barbe de l'État islamique.
Alors oui, étonnant, des jeunes Syriens résidant en Turquie ont mis en scène des sketchs dans lesquels ils se moquent des djihadistes. Dans une des vidéos, par exemple, on voit un émir djihadiste qui boit, fume et envoie des selfies sur WhatsApp. Ensuite, lorsqu'une jeune demoiselle s'approche, il se transforme en homme de vertu. On le voit lui installer une ceinture d'explosifs tout en lui promettant le paradis et il lui lance... On s'y retrouvera. Si ces jeunes Syriens se moquent des djihadistes, c'est pour combattre à leur manière l'organisation État islamique. Ces hypocrisies et enfin la peur que cette organisation a su installer. Ces comédiens ont appelé leur groupe Daya al-Taseh, qui pourrait se traduire par une expression sarcastique telle que « nous voilà bien barrés ».
Enfin, Anissa, les mères célibataires sont hélas toujours parias de la société marocaine.
En effet, au Maroc, avoir des relations sexuelles en dehors du mariage est proscrit et passible d'une peine de prison. Cette législation a contribué à mettre à l'écart et à stigmatiser les mères célibataires au Maroc. Ces femmes sont le plus souvent abandonnées par les pères des enfants et traitées en pestiférées. Pour éviter une telle stigmatisation, certaines marocaines sont prêtes à risquer leur vie en se soumettant à des avortements clandestins qui sont également interdits par la loi marocaine, même en cas de viol. Plus de 800 avortements clandestins seraient pratiqués tous les jours au Maroc, selon un rapport de l'Institution nationale de solidarité avec les femmes. La loi interdisant les rapports sexuels avant le mariage est également valable pour les hommes. Les tests ADN étant trop chers, les mères célibataires abandonnent la plupart du temps les poursuites judiciaires avant d'avoir prouvé l'identité du père.
Et un débat national sur la question de l'avortement est en cours actuellement au Maroc. Merci Anissa Jalab.
Merci à vous Eric.
Je rappelle l'adresse des observateurs de France 24, observers.france24.com.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la presse arabe s'intéresse largement à la montée de la tension entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte d'un côté et l'Iran de l'autre à la suite de l'intervention militaire au Yémen.
Oui, l'éditorial du journal panarabe Al-Arabi Al-Jadid titre « Tension sans précédent dans les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ». Il explique que rien ne va plus entre le royaume wahhabite sunnite et la république islamique chiite. Des journaux arabes continuent à accuser l'Iran, mais aussi le Hezbollah libanais, d'avoir dépêché des conseillers militaires au Yémen pour venir en aide aux rebelles houthis. La presse arabe reprend aussi les déclarations du ministère égyptien des Affaires étrangères qui rejette les accusations iraniennes d'ingérence dans les affaires du peuple yéménite. L'occasion pour des éditorialistes de se demander pourquoi Téhéran est tellement préoccupé du bien-être du lointain Yémen s'il n'y avait pas en réalité des visées sur ce pays qui contrôle l'accès sud de la mer Rouge.
Et puis Alexandre, vos journaux reviennent aussi sur l'axe Riyad-Le Caire, car certaines voix discordantes se font entendre.
Oui, l'éditorialiste Radouane El Sayed estime que l'axe Riyad-Le Caire est vital pour le monde arabe et que chaque fois que cette alliance faiblit ou se brise, tout le monde arabe en pâtit. Alors il accuse la gauche égyptienne et les nassériennes d'avoir combattu cette alliance par le passé et de continuer à le faire aujourd'hui. Plusieurs journaux égyptiens de tendance justement nassérienne avaient exprimé leurs réserves concernant l'opération militaire Tempête de la Fermeté au Yémen et surtout leur refus total de toute opération terrestre où des troupes égyptiennes seraient impliquées. Des éditorialistes célèbres comme Ibrahim Aïssa pour l'Égypte et Jamal Khashoggi pour l'Arabie Saoudite se sont même livrés à une joute par médias interposés.
Des tensions encore, Michel Paul, cette fois entre Israël et les États-Unis, et même aussi avec l'Europe, à propos cette fois des colonies de peuplement.
Oui, c'est la manchette du quotidien Haaretz. 16 ministres des Affaires étrangères européens relancent l'initiative d'étiquetage des produits made in colonies de peuplement en Cisjordanie et aussi sur le plateau du Golan. Alors dans le journal, on peut voir la liste des pays qui appuient cette initiative renouvelée, et aussi ceux qui n'ont pas apposé leur signature, avec ce sous-titre « L'Allemagne est le seul des 5 grands pays européens à ne pas soutenir cette proposition ». Et ce n'est pas par hasard, Eric, que la position de l'Allemagne est soulignée. Les médias relèvent en effet la petite phrase d'un diplomate israélien qui remarque que la publication de cette initiative est intervenue alors que les Israéliens ont commémoré la Shoah et que cela équivaut à placer une étoile jaune sur ces produits.
Et puis, une décision juridique, Michel, qui provoque de nombreuses critiques en Israël.
Oui, c'est une décision de la Cour suprême israélienne. En fait, il s'agit du feu vert de la plus haute instance juridique israélienne à l'expropriation et à la confiscation de biens appartenant à des Palestiniens dans la partie orientale de Jérusalem. Cela à la condition que le conseil juridique du gouvernement, qui fait office de procureur général, apporte son soutien à cette requête. La presse souligne que, dans leurs attendus, les juges ont indiqué qu'il ne peut s'agir que de cas rarissimes. Parmi les commentaires, on peut trouver cette petite phrase « Les juges de la Cour suprême ont démontré qu'ils ne faisaient pas face à leurs responsabilités ».
Alexandre Bouchanti, vos journaux couvrent l'aspect anecdotique des élections générales au Soudan.
Et voici quelques exemples des anecdotes qui circulent au Soudan et qui sont reprises par Al-Quds Al-Arabi. Alors on demande à un officiel du parti au pouvoir au Soudan quelle est l'amende à payer pour la falsification des élections. Et le responsable de répondre, nourrir 60 observateurs internationaux. Une autre, les habitants d'un quartier de Khartoum s'aperçoivent que les morts ont voté dans leur circonscription et quand ils protestent, le responsable répond par un verset du Coran et ne considérez pas ceux qui ont été tués pour Dieu comme étant morts. Et pour finir, cette caricature où un responsable annonce fièrement que plus de 10 000 personnes ont voté dans sa circonscription, une circonscription où il n'y a que 5 000 électeurs inscrits.
Faire voter les morts, un grand classique. Probablement un attentat nationaliste, Michel, en tout cas selon la police israélienne, une voiture a foncé dans un abribus à Jérusalem.
Le 6e attentat à la voiture Bélier en l'espace de quelques mois, et la plupart dans le même secteur de Jérusalem. Assassinat dans une station d'autobus, proclame Yedioth Aharonot, avec la photo de la victime. Dans la presse aussi, la photo du conducteur de la voiture, un habitant de l'est de la ville qui affirme qu'il ne s'agissait que d'un simple accident.
Alexandre, un appel aux femmes égyptiennes à tomber le voile dans une manifestation sur la place Tahrir fait couler beaucoup d'encre en Égypte.
Oui, l'appel a été lancé par l'intellectuel et journaliste égyptien Chérif Chouachi, qui se bat depuis des décennies pour la laïcité. Un appel qui a été très mal reçu par les islamistes, mais aussi par les conservateurs, qui accusent Chouachi de tous les maux, y compris celui répréhensible par la loi de mépris de l'islam.
Et pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour ?
Bien, c'est la photo d'Israéliens immobiles au moment de la sonnerie des sirènes pour commémorer la Shoah. La semaine prochaine, autre commémoration, cette fois la journée du souvenir des soldats tombés pendant les guerres, notamment les 116 militaires tués pendant l'opération Bordure de Protection l'été dernier à Gaza.
Merci Michel, merci Alexandre. Pierre Chaffanjon a réalisé cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Demain, dans Religion du Monde, Geneviève Delrue parlera notamment du sauvetage parfois rocambolesque du patrimoine religieux et culturel du christianisme oriental. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.